Daguet pour le journal d'Haïti et des Amériques. Bonjour.
Bonjour Magali, bonjour à tous. Au sommaire aujourd'hui, une invitée qui viendra nous parler de la situation au Nicaragua. La militante des droits de l'homme, Bianca Jagger, était à Medellín, en Colombie, pour plaider la cause du peuple nicaraguayen. On l'entendra au micro de Marie Normand. À Cuba, les réformes économiques permettront-elles de pallier aux sanctions américaines? Le président cubain a en tout cas annoncé un large plan de relance. On en parlera avec Domiti Piron à La Havane. Et puis du football, avec la défaite hier d'Haïti dans la Gold Cup face au Mexique et puis la victoire des États-Unis en demi-finale de la Coupe du Monde féminine en France. On sera dans un bar avec notre correspondante à Washington, Anne Corpé, où vous l'entendrez, les supporters n'ont pas boudé leur plaisir. Bonjour Stéphanie Schuller.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Et on commence tout d'abord avec ce match. La nuit dernière, tous les Haïtiens avaient les yeux rivés sur le stade de Glendale près de Phoenix en Arizona. C'est là que l'équipe nationale haïtienne de football a tenté le tout pour le tout pour atteindre la finale de la Gold Cup en face des Grenadiers, le grand favori de ce championnat, le Mexique.
Ouais, pendant 93 minutes, les Haïtiens ont tenu tête aux joueurs mexicains, s'exclame Alter Press. 0-0 à la fin du temps réglementaire. C'est au tout début de la prolongation que l'arbitre qatarien accorde un pénalty au Mexique. Pénalty litigieux, voire inexistant, s'emporte l'agence en ligne haïtienne. Et c'est sur le score de 1-0 que le Mexique gagne sa place en finale.
Voilà, et le sélectionneur d'Haïti, le français Marc Colas, regrette ce dénouement, mais se projette déjà sur les éliminatoires de la Coupe du Monde. On l'écoute.
La victoire du Mexique est méritée. Maintenant, c'est vrai que j'aurais préféré qu'il marque un but autrement que sur cet incident, parce que là, j'ai vraiment eu l'impression qu'on voulait que ce soit Mexique en finale. Cette défaite met fin à une série de 8 victoires successives, donc j'espère qu'à partir de septembre, on va repartir sur une nouvelle série. Je crois que les joueurs au cours de cette compétition se sont rendus compte de leurs possibilités. Il nous a manqué un petit peu de fraîcheur, parce que mes attaquants ont beaucoup donné et on ne s'est pas assez créé d'occasion dans cette partie pour marquer un but. Donc on a encore du travail, mais je dirais qu'aujourd'hui on a des bonnes bases.
Voilà le sélectionneur de l'équipe nationale haïtienne de football, Marc Colas.
Les Grenadiers, c'est le nom de l'équipe haïtienne, donc, ont quitté la Gold Cup par la grande porte. Se félicite en tout cas le nouveliste Anne. Nous avons montré que nous pouvions rivaliser avec les meilleurs de la zone, estime le président de la Fédération haïtienne de football dans les colonnes du journal. Yves-Jean Barthes souligne que le football ne peut pas se reposer sur la seule assistance de la FIFA et de la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes. La CONCACAF, qui soutiennent toutes deux financièrement la fédération haïtienne, le gouvernement haïtien doit également prendre sa part.
Le nouveliste Stéphanie qui rappelle aujourd'hui la responsabilité des politiques haïtiens.
Cette compétition devrait montrer aux élites de ce pays la place qu'occupe le sport dans notre vie, le football en particulier, mais en général tout ce qui peut rendre fier un haïtien, estime Franz Duval dans son éditorial. Avant de s'adresser aux Grenadiers, la sélection nationale, son staff, les dirigeants de la Fédération haïtienne de football nous ont rendus fiers. Nous avons vibré avec eux. Nous nous sommes soudés autour du drapeau et de l'espoir. Merci à chacun d'eux. En finale, le Mexique affrontera le vainqueur de l'autre demi entre les États-Unis, hôte de la compétition, et la Jamaïque, qui ont rendez-vous ce mercredi soir dans le Tennessee.
Et on part justement aux États-Unis, Stéphanie, où là, c'était la liesse hein, après la victoire en demi-finale de l'équipe de foot féminine dans la Coupe du Monde qui se tient actuellement en France. Le score 2-1 face à l'Angleterre. Notre correspondante à Washington, Anne Corpé, s'est rendue dans un bar où les supporters américains sont très fiers de leur championne.
Le coup de sifflet final retentit et la foule exulte au Lucky Bar. Kofi est un fan absolu de l'équipe américaine.
Unbelievable.
Incroyable, ces filles sont des rockstars. Leurs aptitudes physiques, leur stratégie, leur compétitivité, elles ont tout. Elles sont incroyables, géniales, je les adore.
Awesome. Awesome. I love them all.
Le football, le soccer, comme on dit ici, est beaucoup moins populaire aux États-Unis que le basket ou le football américain. Pendant tout le match, Kofi a expliqué les règles du jeu à son voisin Randy.
Je découvre le football. Je suis très content que les Américains occupent plus le devant de la scène dans ce sport. C'est vraiment nouveau.
Beaucoup de femmes aussi dans l'assistance, dont Chris, qui joue depuis toute petite.
J'ai joué au foot quand j'étais petite. À l'époque, personne parlait du foot féminin et tout le monde s'en fichait. Mais maintenant, beaucoup de gens s'y intéressent et soutiennent nos joueuses. C'est vraiment génial à voir et à entendre. C'est vraiment une super Coupe du Monde.
Dans un pays très divisé par la politique, Sarah, elle, savoure l'unité des Américains derrière leur équipe.
Quand on voit la foule qu'il y a dans ce bar, on voit des hommes et des femmes se rassembler derrière quelque chose et être fiers d'être Américains. On n'avait pas vu ça depuis plusieurs années.
En réalité, les partisans de Donald Trump détestent la capitaine de l'équipe et le font savoir sur les réseaux sociaux. Il faut dire que Megan Rapinoe est ouvertement opposée au président. Elle a déclaré qu'en cas de victoire, elle refuserait de se rendre à la Maison Blanche. Anne Corpet, Washington, RFI.
Voilà, et la finale de cette Coupe du Monde de foot féminine sera à suivre dimanche à 17h entre les États-Unis et le vainqueur de l'autre demi-finale, Suède-Pays-Bas. Ce sera ce soir à Lyon. Allez, on termine cette page, on ferme plutôt cette page sport et on part à présent au Venezuela, Stéphanie, où l'émotion est grande. Un adolescent de 16 ans a perdu ses deux yeux dans la répression d'une manifestation à laquelle il participait.
Oui, Rufo Chacón manifestait aux côtés de sa mère et de ses voisins à Tariba, une ville dans l'état de Táchira, pour réclamer le rétablissement de la distribution du gaz domestique quand la police a tiré de la chevrotine sur la foule, rapporte El Universal. Selon l'équipe médicale qui soigne l'adolescent, Rufo Chacón a reçu 52 impacts au visage, ce qui a entraîné la perte complète de la vision.
Et après la mort le week-end dernier d'un militaire en détention qui avait été torturé, ce nouveau fait de violence d'État suscite de nombreuses réactions, Stéphanie.
Absolument. Le recours à la torture s'est érigé en politique d'État, déplore par exemple El Nacional, qui parle de révolution dégénérée. La torture et la répression sont devenus des comportements systématiques de l'État vénézuélien afin de garder le pouvoir, estime aussi tel quel. Nicolas Maduro tente de convaincre que la torture qui a tué le capitaine Acosta et la répression qui a rendu aveugle Rufo Chacón sont les conséquences malheureuses de décisions isolées prises par certains responsables, comme s'il n'y avait pas de chaîne de commandement. Mais ces actions sont documentées, prévient le journal, et pour les crimes contre l'humanité, la prescription n'existe pas.
En Colombie voisine, Stéphanie, les autorités sont à la recherche de Jesús Santrich, l'ex-chef de l'ancienne guérilla des FARC.
Jesús Santrich a disparu dans la nuit de samedi à dimanche lors d'une visite dans une zone de réinsertion d'anciens guérilleros dans le nord du pays. Selon les informations du quotidien El Espectador, Santrich se trouvait désormais au Venezuela, où il aurait rejoint son ancien compagnon de lutte Ivan Marquez, autre poids lourd de l'ex-guérilla, lui aussi introuvable depuis plusieurs semaines. Jesús Santrich avait été arrêté en avril 2018 à la suite d'une demande d'extradition des États-Unis, qui souhaitent le juger pour trafic de drogue, rappelle le journal. Il a été remis en liberté le 31 mai dernier sur ordre de la Cour suprême. Celle-ci s'est déclarée compétente dans ce dossier car Jesús Santrich est député, un mandat qu'il a repris le 11 juin pour la Force Alternative Révolutionnaire Commune, le parti issu de l'ancien guérilla dans le cadre de l'accord de paix. Cet accord de paix est désormais mis à mal avec de plus en plus d'anciens guérilleros qui quittent le cadre prévu par l'accord justement pour rejoindre des groupes armés, souligne Semana.
On part à Cuba à présent, Stéphanie. Après avoir annoncé une hausse des salaires du service public, le gouvernement cubain poursuit son programme de réformes économiques, alors que les États-Unis ont récemment annoncé de nouvelles sanctions contre Cuba, notamment l'interdiction des voyages de groupe dans l'île. Le gouvernement annonce un plan de relance pour favoriser la production dans un contexte économique difficile. La correspondance à La Havane de Domiti Piron.
La hausse des salaires du service public était largement attendue de la part des Cubains. Les professeurs, les médecins, les travailleurs du secteur culturel et administratif verront leur salaire doubler à partir du mois d'août. Le salaire moyen passe de 30 à 45 dollars et les retraites seront également augmentées. Le gouvernement a précisé hier soir que des réformes salariales viendraient dans quelques mois. Cette hausse de salaire est la première étape d'une nouvelle stratégie économique. Pour Miguel Díaz-Canel, il s'agit, je cite, de rompre l'inertie et le blocus interne. Des mesures seront donc prises pour favoriser la production et la productivité du pays. Le ministre de l'Économie et de la Planification a précisé que les devises qui entraient dans le pays seraient désormais investies dans la production et non plus dans l'importation. Cela concerne principalement l'alimentation. Le gouvernement entend avancer vers la souveraineté alimentaire, ainsi que diversifier et augmenter ses exportations. L'annonce de ce large plan économique arrive dans un contexte économique difficile, juste avant les vacances, comme pour soulager la population, et selon le chef de l'État, pour affronter la politique américaine toujours plus agressive vis-à-vis de Cuba. Domiti Piron, La Havane, RFI.
C'est la fin de cette revue de presse des Amériques.
Le journal d'Haïti et des Amériques.
On va parler à présent du Nicaragua où le processus de dialogue est toujours au point mort. L'opposition soutient que 89 personnes ont été arrêtées lors des manifestations antigouvernementales de 2018 et elles sont toujours derrière les barreaux. Au moins 62 000 personnes ont choisi l'exil pour échapper aux persécutions. RFI donne la parole aujourd'hui à la militante des droits de l'homme Bianca Jagger qui est née au Nicaragua avec la fondation qui porte son nom. Bianca Jagger revient tout juste de Medellín en Colombie où s'est tenue la 49e Assemblée Générale de l'Organisation des États américains, accompagnée d'anciens prisonniers politiques nicaraguayens. Elle a plaidé pour davantage de sanctions à l'encontre du gouvernement. Ortega, on l'écoute. Bonjour Bianca Jagger.
Bonjour.
Vous rentrez de Medellín en Colombie, où 20 membres de l'Organisation des États américains ont voté une résolution sur le Nicaragua. Ce texte réaffirme la préoccupation de l'OEA face à la détérioration des droits de l'homme. Il demande aussi au président Ortega de libérer l'ensemble des prisonniers politiques, d'autoriser le retour de la Commission interaméricaine des droits de l'homme dans le pays et de trouver un moyen de résoudre la crise politique et sociale à travers un processus de négociation sous 75 jours. Vous, Bianca Jagger, vous plaidiez pour une échéance moins longue. Pourquoi ?
Je pense que chaque jour qui passe au Nicaragua, il y a quelqu'un qui peut être assassiné, il y a quelqu'un qui peut être séquestré, il y a quelqu'un qui peut être mis en prison et il faut aussi être clair que pas tous les prisonniers politiques ont été libérés. Au fait, ceux qu'on croit qu'ils étaient, entre parenthèses, libérés, ne sont pas libérés. On les appelle au Nicaragua des excarcelados.
En fait, ces personnes, pour la plupart, ont été placées sous résidence surveillée. Quelle est leur situation aujourd'hui ? Ils sont menacés ?
Voilà, ils savent pas s'ils vont être arrêtés. Il y a plusieurs d'entre eux qui ont été attaqués, séquestrés. Il y a certains d'entre eux qui ont eu leur propriété confisquée. Et puis, il y a 89 personnes qui sont en prison, mais d'autres qui sont arrêtés tous les jours. Chaque jour que Daniel Ortega est au pouvoir, c'est un jour dangereux pour la population. C'est un jour dans lequel des crimes contre l'humanité peuvent être commis au Nicaragua.
Vous n'étiez pas seul à Medellín, vous étiez justement accompagné par certains anciens prisonniers politiques. C'est le cas par exemple de Irlanda Jerez qui a été persécutée depuis sa libération. Sa maison a été saccagée, son mari a été passé à tabac. Ça servait à quoi de les avoir, ces anciens prisonniers politiques, à vos côtés à Medellín ?
D'abord, je dois vous dire que j'étais surprise qu'on leur a permis qu'ils viennent à Medellín. Mais il faut comprendre la mentalité de Daniel Ortega, son stratégie quand il veut éviter des sanctions. Donc il voulait faire croire que les prisonniers étaient libres, que lui est prêt à faire des négociations. Et moi, la Fondation Bianca Jagger pour défense des droits humains, j'ai décidé d'essayer de les avoir pour que les représentants des différents pays écoutent leurs témoignages, qu'ils se rendent compte de la réalité du Nicaragua. Moi, j'espère que la OEA, l'Organisation des États américains, et que le secrétaire général, M. Almagro, qu'il ne va pas faire une négociation avec Daniel Ortega, dans laquelle Daniel Ortega reste au pouvoir.
Vous y croyez encore, malgré tout, à ces négociations ?
Non. Je connais Daniel Ortega. J'ai eu à voir, dans mes 40 ans des défenseurs des droits de l'homme, à voir avec des dictateurs. Ces gens-là n'y partent pas facilement. Où est-ce qu'il va aller ? Daniel Ortega n'a pas beaucoup d'options. Il ne peut pas aller au Venezuela aujourd'hui. Je ne crois pas qu'il veut aller à Cuba. Je ne sais pas vraiment. En Russie, non. Je crois que Daniel Ortega va tout faire, pour ne pas laisser les pouvoirs. Et c'est pour ça que nous avons tellement besoin de l'appui de la communauté internationale, de l'Union européenne. Il ne faut pas que ce soit seulement les États-Unis, il ne faut pas que ce soit seulement les Canada, il faut les Européens. Les Européens doivent venir à notre secours pour imposer des sanctions à ce gouvernement qui est un gouvernement qui est en train de commettre des crimes contre l'humanité.
La solution, ce sont les sanctions.
Quand vous avez une population qui a décidé de faire une résistance pacifique, qui a décidé qu'ils ne vont pas avoir une autre révolution, parce qu'ils ont vu les résultats des révolutions. Il y a eu une révolution dans laquelle il y a eu 50 000 personnes qui sont mortes au Nicaragua. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un des leaders de cette révolution est aujourd'hui ce dictateur meurtrier. Alors les gens ne veulent pas ça. La seule manière de l'affaiblir, c'est les sanctions.
Vous avez soutenu cette révolution sandiniste il y a tout juste 40 ans. À quel moment ça a commencé à mal tourner? À quel moment vous avez cessé d'y croire?
Je ne sais pas à quel moment ça a mal tourné. Je me sens trahie parce que moi, j'ai mis ma crédibilité en jeu. Parce que j'ai cru à cette révolution comme des milliers de personnes. J'ai cru que vraiment on allait faire les changements nécessaires, qu'on allait avoir des élections libres et qu'il allait au lourd de la justice. C'est un traître de la révolution. Il ne faut pas se laisser tromper. N'appuyez pas un gouvernement parce que vous pensez que c'est un gouvernement de gauche. Quand un gouvernement commet des crimes contre l'humanité, peu importe que ce soit des gauches ou des droites, ce sont des criminels qui doivent être apportés devant la justice, qui doit répondre pour ce crime.
Merci Bianca Jäger d'avoir été avec nous sur RFI.
Bianca Jäger au micro de Marie Normand. L'actualité des Outre-mer avec le journal La Première Caraïbe, présenté par Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour Anne.
À la une en Martinique, deux associations de consommateurs et une association écologiste unissent leurs forces pour dénoncer des carences dans la gestion de l'eau potable.
Il s'agit de l'Association départementale des consommateurs de Martinique, ADCM, l'Association de défense des usagers de l'eau, ADUEM, et enfin l'association Puma pour une Martinique autrement. Elle déplore, entre autres, que le nouveau contrat de délégation de service public de la communauté d'agglomération Cap Nord ait été retoqué par le tribunal administratif de Fort-de-France. Nouveau contrat qui aurait été, selon elle, plus favorable aux usagers. Mais plus généralement, les trois associations déplorent surtout l'état du réseau et la qualité sanitaire de l'eau distribuée. Evelyne Yerso est la présidente de l'ADUEM. Elle est au micro de Bertrand Caruche.
Les réseaux d'eau sont dans un état lamentable. Il y a de la boue, il y a de la rouille, il y a des microbes quand même qui passent. Et justement, lors de la réunion que nous avons avec le préfet très récemment en préfecture, nous avons exigé qu'il fasse des examens au robinet, des prélèvements d'eau au robinet.
Ce n'est pas fait?
Jamais, ça s'est jamais fait. Donc nous avons
demandé. Fait en amont, au moment de la production?
Toujours en amont, toujours en amont. Et c'est pourquoi justement aujourd'hui, compte tenu de l'état des réseaux, nous avons demandé au préfet qu'il y ait des prélèvements et des examens faits au robinet.
Vous avez eu une réponse?
Si, il nous a promis. Il nous a promis de le faire.
On reste en Martinique avec l'inauguration officielle lundi de la centrale Galion 2 à Trinité, une unité mise en service l'an dernier et qui fonctionne à 100% grâce à la bagasse. Elle produit une partie non négligeable de la quantité totale d'électricité en Martinique. La bagasse, c'est ce qui reste de la canne à sucre une fois qu'on a enlevé le sucre. Cette centrale présente également d'autres intérêts. Olivier Flambard est le directeur régional d'EDF Martinique. Il est au micro de Claude Gracien.
Un intérêt pour la transition énergétique, puisqu'elle va permettre de verdir très significativement le mix énergétique martiniquais, puisqu'on va passer de 7 à 25% d'énergie verte produite sur la Martinique à la faveur de la mise en service de Galion 2 et puis du parc de graisse qui a été mis en service en début d'année. Le deuxième intérêt, c'est que c'est un moyen de production conventionnel avec une turbine et un alternateur qui amène de l'inertie électromécanique sur le système. Alors c'est un petit peu compliqué,
si on peut simplifier.
Ça permet de soutenir la fréquence en cas d'aléa sur le système électrique, ce qui n'est pas le cas par exemple des énergies photovoltaïques ou éoliennes. Donc la transition énergétique, c'est évidemment un souhait global et partagé, mais il va falloir dans les années futures avoir un équilibre entre les énergies éoliennes et photovoltaïques, on va dire les ENR un peu conventionnelles, et puis des ENR prévisibles et qui amènent de l'inertie comme la centrale de Galion 2.
Bon après-midi, Anne. À demain.
À demain, merci Benoît Ferrand pour ce journal La Première Caraïbe. C'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain 14h10, heure de Paris, midi 10 en temps universel. Restez avec nous dans un peu plus de 30 secondes, le retour de l'actualité sur RFI.